t'a fait connaître, homme, ce qui est vrai. On t'a fait qui est bien. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est vrai que c'est, je crois que c'est le lot de chaque chrétien de marcher humblement avec Dieu. De se couvrir de sa justice, de son amour et d'avancer avec lui. Et j'aimerais prier pour Jean-Gilles. Que le Seigneur le conduise dans ce qu'il va nous apporter. Jean-Gilles, j'aimerais te prier que le Seigneur te remplisse de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce pour chacun d'entre nous. Que les paroles qu'il t'a confiées puissent être aussi données ce matin et que nous puissions, chacun ici présent, être encouragés par ces paroles, être fortifiés pour la marche ici-bas. Merci Seigneur parce que nous comptons sur toi. Amen.
Bonjour. Bonjour, heureux de vous revoir ce matin. Nous allons parcourir ensemble un livre de la Bible, le livre Michée. C'est un petit livre qui se trouve dans les derniers livres de l'Ancien Testament. En fait, c'est le septième dernier livre. Et j'ai choisi comme titre Michée, l'annonce d'une solution à l'injustice. Alors, on va découvrir dans ce texte les premiers versets de ce livre de Michée, chapitre 1, les premiers versets de 1 à 5, le passage qui nous dit justement le contexte. En fait, il faut s'imaginer que Michée, c'est un prophète qui vit dans la période 750 ans avant Jésus-Christ. Donc vous imaginez, c'est 250 ans après David, donc on peut situer simplement ce contexte. Donc je vous propose la lecture de Michée 1, les versets 1 à 5. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchette, au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentive, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre, sous lui les montagnes se fondent, les vallées s'en trouvent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob ? N'est-ce pas Samarie ? Quels sont les hauts lieux de Juda ? N'est-ce pas Jérusalem ? On découvre dans ce texte que on parle d'un Michée de Moréchette. Je vais vous donner plus d'informations tout à l'heure, mais on voit qu'il a travaillé, il a prophétisé durant le temps de trois rois, Jotham, Akaz et puis Ézéchias. En fait, il faut s'imaginer, c'est une famille. On pourrait dire le grand-père, le fils et le petit-fils. Et Michée, en tant que prophète, a pu découvrir un petit peu les faits, les paroles de ces trois hommes de cette famille. Et ce qui est intéressant, ces rois, lorsqu'ils sont devenus rois, ils étaient jeunes. Ils avaient 25 ans pour le premier, 20 ans pour le second, 25 ans. Leur règne était aussi de 16 années à 20 ans. Donc, j'ai trouvé intéressant, on peut retrouver ça dans les rois, justement, que pour avoir une autorité pour parler à un peuple, pour diriger une nation, la nation juive de l'époque, les Hébreux, eh bien, c'était les rois qui étaient jeunes. Et j'ai trouvé intéressant de relever cette information. Maintenant, lorsqu'on parle justement que c'est une prophétie sur Samarie et Jérusalem, je peux vous dire que ce prophète Michée, c'est le seul prophète connu qui est prophétisé en même temps sur deux royaumes. Alors, ça se passe avant la période de la séparation du schisme, où il y a les 12 tribus qui sont encore ensemble réunies, où nous avons sur le royaume, ce qu'on appelle le royaume d'Israël, le royaume du Nord, où il y a la capitale Samarie, les 10 tribus, Et puis, il y a aussi les deux autres tribus qui font partie du royaume de Juda, qui est le royaume du Sud. Et ce message que Michée reçoit de l'Éternel, cette vision qu'il a eue, c'est pour dénoncer des crimes, dénoncer des injustices. Et ce message est vraiment pour l'entité de ce peuple hébreu, j'allais dire ce peuple d'Israël. Alors, je vous propose de connaître un tout petit peu plus notre ami Michée de Moréchette. Alors, Moréchette, c'est le nom d'un village, un petit village qui se trouve à côté de la ville de Gath. Donc, la ville de Gath est ici, se situe entre la mer Méditerranée et puis Jérusalem. Mais ce qui est passionnant dans la Bible, parce que ce fut pour moi une grande joie de découvrir, de préparer ce message, parce qu'il y a plein de relations. Alors, si vous lisez ou on parcourt d'autres passages, on peut savoir que dans la ville de Gath, il y a au moins trois éléments importants qui se sont passés dans le passé. C'est une ville où, à l'époque, il y avait les Philistins. Alors, vous remontez un petit peu dans le passé, l'histoire de David. David, lorsqu'il a voulu fuir Saül, eh bien, il s'est réfugié dans cette ville. Par exemple, une autre histoire, vous avez connu le grand Goliath. David a battu Goliath avec sa fronde. Et ce Goliath, ce Philistin, habitait à Gath. Ou bien, une troisième information, je pourrais dire qu'on se retrouve lorsque les Philistins avaient emporté l'Arche de l'Alliance, ils l'avaient volée d'une certaine façon parce qu'il y avait eu, je dirais, des guerres. À un moment donné, ils se sont dit, mais où est-ce qu'on va la placer, cette Arche? Parce qu'ils voyaient partout où elle était déplacée, eh bien, il y avait des malheurs qui arrivaient dans les régions, dans la ville. Et à un moment donné, cette Arche de l'Alliance a même été déposée dans cette région de Gath. Donc, ce prophète Michée, en l'occurrence 250 ans après, puisque c'était un peu la période de David, puis que Michée est venu après, a dû certainement s'imprégner de toute cette histoire de cette région. Et je trouve intéressant de relever cette information. Le message principal de Michée, c'est de dénoncer les péchés des responsables, y compris des prêtres et des prophètes. Quel était le but, en fait, d'un prophète ou d'un prêtre ou des prêtres? C'était simplement d'enseigner au peuple à distinguer entre le bien et le mal. Et Michée, lui, il reste fidèle à son appel. Il proclame les paroles de Dieu, quoi qu'il lui arrive. Et j'ai trouvé passionnant, c'est que Michée attribue la puissance de son ministère à l'Esprit de l'Éternel. Alors, en lisant dans la Bible, dans Michée 3, le verset 8, il est écrit, « Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Alors, Michée fait partie d'une équipe de petits prophètes qu'on trouve dans la Bible. Vous pouvez compter, j'en ai mis 12. Il y a 12 prophètes, petits prophètes, mais si je vous dis, dites-moi par exemple le nom de grands prophètes, eh bien on pourrait citer des prophètes qu'on trouve dans la Bible où il y a un texte, il y a par exemple Jérémie, il y a Ésaïe, il y a Daniel, non, il y a Ézéchiel, ça c'est les grands prophètes. Tandis que ces petits prophètes un peu moins connus qu'on trouve à la fin de l'Ancien Testament, bien les voici. Alors je vais quand même vous les donner parce que nous trouvons Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Zophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Alors, à l'école du dimanche, on apprend souvent l'histoire de Jonas avec le poisson, parce que ce brave Jonas n'avait pas voulu aller proclamer la parole de Dieu, et puis, ma foi, il s'est passé quelque chose où l'Éternel a voulu, je dirais, corriger, discipliner notre ami Jonas, ou bien un texte que, normalement, tout le monde connaît, dans Joël 3, le verset 1, « Car dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. » Et vos aînés auront des songes. Ça, c'est aussi les petits prophètes qui ont apporté les paroles intéressantes. Et je trouvais de se dire, ces petits livres prophétiques, des fois, ça vaut la peine d'y lire parce qu'il y a tellement de relations. Enfin, je veux vous parler, dans le début du texte, on disait que Jérémie était contemporain d'Ésaïe. Alors, on voit en bas, justement, la ligne des trois rois. Il y avait Jotham, Akaz, Ézéchias. Roi de Juda, ça veut dire du royaume du Sud, merci. Donc, on peut découvrir que Michée a vécu en 742 à 687 avant Jésus-Christ. Et puis, comme je vous disais qu'il était contemporain, on voit Ésaïe en 740 et 681. Parmi les 12 petits prophètes, il y en a un qui a aussi prophétisé dans cette même période. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une idée? Si je vous recite les 12 petits prophètes, il y avait Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Nahum, Habakkuk, Zophonie, Agée, Zacharie, Malachie. Pardon? On parle d'Osée. Bravo! C'était Osée entre 753 et 715. Alors, une chose intéressante, lorsque ces trois prophètes, c'est-à-dire les deux petits prophètes, Michée et puis Osée, sont décédés, et puis qu'Ésaïe, le grand prophète, est décédé, on a eu Jérémie, le grand prophète, qui est arrivé. Et Jérémie, il nous parle de bien, il nous parle de la réputation de Michée dans Jérémie 26, 18. Et je vous propose de regarder ce qui est écrit. Jérémie 26, 18, il est dit « Michée de Moréchette ». Donc, c'est intéressant de voir qu'il reparle du village d'où il vient. Il prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda: « Ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. » Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignait-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous, nous chargerions notre âme d'un si grand crime? Et je trouve intéressant dans le domaine prophétique où il y a beaucoup de, je dirais, d'interrelations où des prophètes entendent, reçoivent des visions et qui, effectivement, ce Michée avait une bonne réputation. Je me suis fait presque avoir en préparant ce texte parce que je voulais savoir, mais au fond, on parle du village de Moréchette, hein, où habite notre ami Michée, mais au fond, il est le fils de qui? Et j'ai cru un moment que c'était le fils de Jimla. Mais non, ce n'est pas le fils de Jimla, parce que ce prophète qui est décrit dans 1 Roi 22, 5 à 28, eh bien, c'est 130 ans plus tôt. C'était ce fameux prophète qui avait dû donner une parole lorsqu'il y avait en même temps Josaphat, qui était un roi du royaume du Sud, qui aimait l'Éternel, et puis le mauvais roi Akab, qui était du royaume du Nord. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai failli me faire avoir, mais en fait, c'est une super histoire, ce Michée, fils de Jimla, parce que c'est aussi un prophète qui aimait l'Éternel et qui disait vraiment les paroles, quoi qu'il lui arrive. Alors, cerise sur le gâteau, si vous voulez découvrir plus, je vous propose, dans les cellules ou personnellement, de relire 1 Roi 22, 5 à 28. Je n'en dis pas plus, mais c'est un passage exceptionnel. Voilà, revenons maintenant aux prophéties de Michée. Donc, le livre de Michée contient 7 chapitres. Ces 7 chapitres, on va découvrir que d'abord, il y a le contexte, les injustices sociales, il y a les accusations contre les oppresseurs de l'époque, il y a des menaces contre les chefs politiques et spirituels. Il y a une partie où on voit que Michée reçoit pour partager le règne futur de l'Éternel. Il y a aussi un message très connu pour expliquer la partie de la naissance du règne du Messie. Et après, il y a une douceur que l'Éternel il veut dialoguer avec son peuple. Et ça, j'ai trouvé bien, c'est comme une sorte de dialogue, un plaidoyer de l'Éternel. Et dans pratiquement toutes les prophéties, les livres prophétiques, il y a toujours une espérance. Lorsque l'Éternel corrige son peuple, discipline parce que le peuple s'est retiré à cause qu'il y a de l'idolâtrie, lorsqu'il y a l'injustice, eh bien, l'Éternel donne toujours à son peuple une possibilité de revenir et c'est un message d'espérance qu'on verra à la fin. Donc, je résume ce que je vous ai dit, les injustices, accusations, ainsi de suite. Mais nous allons voir un petit peu en détail. Idolâtrie, injustice sociale. Cette image, pour ceux qui nous écoutent, ne peuvent pas la voir, mais en fait, c'est un homme très fort, aisé, qui crie presque pour avoir de la nourriture et c'est un pauvre qui le nourrit. En fait, cette image n'est pas dans la Bible, mais c'était pour illustrer un peu cette injustice. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que dans ce peuple, dans cette région où il y a les 12 tribus, eh bien, on a laissé, par exemple, des idoles. Il y avait des images taillées. Et bien sûr que l'Éternel ne supporte pas que son peuple géré, qu'il a aimé depuis le début, puis qu'il aime encore, se tourne vers d'autres dieux. Il y avait un message qui dit, voilà, par exemple, « Vous chassez de leur maison, chéris les femmes de mon peuple, vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. » Donc on voit que c'est aussi un message où les femmes sont expulsées de leur maison. Et le plus grave, c'est qu'il y a un autre texte, « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. » En fait, il parle un message des prophètes, parce qu'il y avait des prophètes corrompus. Alors pour ceux qui désirent prendre des notes, ce sera les textes dans Michée 1, le verset 7, Michée 2, les versets 1 à 3, et Michée 2, les versets 7 à 9. En fait, ce qu'on peut découvrir, c'est ce résumé. C'est ce que je vous ai dit. Des prophètes corrompus qui vivent en fonction de l'argent et non en fonction de la justice. Je vais faire une métaphore en imaginant que je suis malade, je viens chez un docteur. Docteur, j'ai mal à tel endroit, qu'est-ce que je peux faire? Le docteur me dit, au fond, combien vous me donnez? Ben, je suis un homme riche, je sors mon billet de 100 francs sur la table, il me donne un bon médicament et je suis content, je suis guéri. Par exemple, je suis un pauvre de la rue qui a la même douleur, arrive, combien vous me donnez? Désolé, j'ai pas de sous. Ben, tenez un verre d'eau, puis ça vous aidera. Bref, en fait, c'était grave au niveau du peuple de Dieu lorsque les prophètes ne respectaient pas, je dirais, l'enseignement que l'Éternel voulait annoncer à son peuple. Et de dire des fausses choses ou donner des fausses paroles en fonction de l'argent, c'était une corruption grave. Et c'est pour ça qu'au début de ce texte qu'on lisait, que notre Seigneur descend, hein, saoulit les montagnes se fendent, les vallées s'en trouvent comme la cire, on voyait vraiment un Dieu puissant qui venait et pour corriger, pour, je dirais, donner une chance à ce peuple de revenir à lui. Tout ça se passe dans un climat de fausse religion. Alors, je vais vous parler, j'ai marqué « scandale profond ». Alors, pour ceux qui nous écoutent, on voit des ruines, un tas de cailloux, de terre. Alors, ce scandale profond, vous allez le découvrir ensemble avec ce texte qui est dans Michée 3, 12. « C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du Temple une sommité couverte de bois. » Texte que nous trouvons dans Michée 3, 12. Ce qui se passe, pourquoi c'est un scandale? Vous imaginez ce peuple hébreu, si on parle de Jérusalem, la ville qui serait détruite, mais ce n'est pas possible, c'est l'endroit de la présence de Dieu. Si on parle que même le temple, hein, qui pourrait être même détruit, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas détruire le temple, c'est vraiment cette présence où l'Éternel. Donc, effectivement, c'était un message qu'on pourrait dire, que j'ai résumé comme un scandale profond. Voilà. Si on parcourt les livres suivants, il y a un message sur le royaume messianique. Alors, je vous montre dans Michée 4, 1 à 2, un texte que j'ai trouvé génial. Je vous explique pourquoi. C'est que ce message, lorsque je vous ai dit que Michée était contemporain d'Ésaïe, alors vous imaginez ces deux prophètes, le petit prophète et le grand prophète, les deux ont reçu exactement la même parole. Mais je vais d'abord lire ce message de Michée 4, 1 à 2. « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Alors voilà, par exemple, en comparaison avec le texte d'Ésaïe 2, 2 à 4. Donc, si à la maison on veut étudier ces deux textes, Michée 4, les versets 1 à 2, et Ésaïe, les versets 2 à 4, ce qui est intéressant, nous voyons, par exemple, il est sous Michée, c'est écrit, il arrivera dans l'avenir, Ésaïe lui traduit dans la suite des temps. Ensuite, on découvre aussi qu'en vers, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. C'est exactement « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob ». Bref, des petits exemples comme ça, moi je trouve que c'est fort et j'aime ce côté entre ces prophètes qui écoutent l'Éternel et puis reçoivent la même parole. Et pourquoi pensez-vous que Michée a reçu cette parole et puis Ésaïe la même chose ? Bien, j'ai réfléchi. En fait, Ésaïe, lui, c'était un prophète qui était à la cour du roi. Donc, il était avec les grands, les aristocrates, on pourrait dire. Tandis que Michée, lui, il était un homme de la campagne, avec les pauvres. Et je pensais que ce message, en fait, qui était tellement important pour parler de ce royaume messianique, l'Éternel voulait annoncer ça à toute génération, à tout peuple confondu, que ce soit pauvre et riche, pour que tout le monde puisse entendre cette parole. Alors, lorsqu'on découvre dans la Bible, moi je me suis réjoui en voyant ces petits détails, ça fait du bien. Mais voilà, maintenant on continue un peu le parcours de ce livre de Michée, on passe à la naissance du Messie. J'imagine tous les Israélites, hébreux plutôt, les Juifs attendent ce message. Ils doivent le connaître parce que d'une certaine façon, ils ont dû l'étudier. Ce qui se passe, si je vous lis, par exemple, on va laisser le message qui est marqué, qu'on trouve dans Michée 5, verset 1. Alors, « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Je vais relire cette phrase parce qu'elle est tellement importante. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Alors, je ne sais pas si vous avez mesuré dans ces quelques mots, cette phrase qui est si courte, il y a un condensé, mais hyper important. En fait, il y a l'annonce du lieu de la naissance de Jésus à Bethléem et Ephrata. Ça, ce n'est pas trop difficile. On peut s'imaginer qu'on peut comprendre, en fait, la petite ville de Juda. Mais la suite est très intéressante. « Et de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Ça, c'est correct, c'est bon. « Mais dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Et cette dernière phrase, ça signifie, en fait, c'est l'annonce d'un Messie, du Messie qui est en même temps pleinement homme et pleinement Dieu. Parce que quelqu'un qui puisse venir du passé à l'éternité, eh bien, il n'y a que Dieu. Et si nos amis, les Juifs, auraient tout d'un coup cette révélation de découvrir ce passage, et puis réaliseraient effectivement cet homme qui a été, ce Jésus-Christ qui est devenu homme, hein, sur la terre pour nous sauver, en fait, c'est ça. Dans l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et c'est vrai que c'est quelque chose de passionnant. À la fin, on voit aussi, un peu plus tard, il y a un texte dans Michée 6-8, il ne sera pas projeté, mais je vais vous le dire. C'est là on découvre tout d'un coup que Dieu rappelle son amour, sa bienveillance avec son peuple. Il lui dit même, « Pourquoi tu t'éloignes de moi? Pourquoi tu ne t'occupes pas de moi? Pourquoi tu ne suis pas mes commandements ?» Mais le texte principal qui est dans Michée 6.2 qui dit, « Car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. « Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Est-ce que lui répondit Balaam, fils de Béor de Sittim Magial, afin qu'il reconnaisse les bienfaits de l'Éternel ?» Là, on découvre à la fin un petit peu, c'est le chapitre 6, puisque j'avais dit que ce livre de Michée il contenait 7 chapitres, eh bien, on voit encore ce rappel, cette bienveillance de l'Éternel face à ce peuple. Alors, une clé que j'ai dessinée, un verset clé. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le chant que nous avons chanté, le dernier chant ? On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Alors, voilà. Eh bien, ce qu'on vient de chanter, c'est un chant qui vient de la Bible, de Michée 6:8. Et en fait, c'est un résumé tellement fort dans ce texte qui, à mon avis, est un verset clé qu'on devrait tous le connaître. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi ? Ben en fait, c'est que tu pratiques, que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est le message de Michée 6:8. Et je me suis dit, mais au fond, Jésus-Christ nous a aussi donné un autre message. Lorsqu'il nous a donné, par exemple, ces deux commandements d'amour, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je trouvais que ce que le Christ nous a enseigné et ce que l'Éternel a transmis à Michée à l'époque, eh bien, c'est en fait d'aimer notre Dieu, d'agir, de mettre en pratique le droit, de marcher humblement avec notre Dieu. Et je trouvais intéressant de vous parler de cette comparaison entre ce message d'amour, les deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On arrive à ce chapitre 7 et le message d'espérance. Il sera court, ce message d'espérance. Donc, pour ceux qui apprennent rapidement des petits versets, si je vous dis Michée 7:7, en fait, le message est le suivant. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. » Lorsque ce matin, on a entendu la nouvelle par rapport à cet accident, on peut se dire « mais il y a de l'injustice là-dedans ». Mais pourquoi Dieu a permis ou pourquoi tel élément est arrivé ? Lorsque tout d'un coup vous êtes dans un lieu de travail et puis on vous exploite, ou bien que tout d'un coup on voit autour de nous des pauvres qui n'ont pas assez à manger, ou bien que tout d'un coup on a tellement d'exemples qu'on pourrait dire, il y a une maladie qui arrive, la réponse que Dieu nous demande dans cette espérance, c'est de mettre notre espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Ça ne veut pas dire qu'il va vous guérir, ça ne veut pas dire qu'il va remettre une jambe parce que la jambe a été coupée, ça ne veut pas dire que tout d'un coup on aura toutes les réponses, mais on aura un Dieu qui nous aime dans notre situation et nous rejoindra chaque fois. Donc je répète ce message d'espérance, mais moi je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. « Mon Dieu m'exaucera », Michée 7:7. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour aider les démunis face à l'injustice ? On peut être partenaire. On peut aider d'autres qui sont dans le besoin. On peut avoir ce cœur de compassion. Et dans les partenaires, par exemple pour les sociétés qui sont sur le terrain, on dit souvent c'est un petit peu plus, par exemple, dans des régions pauvres, eh bien, je voulais citer, par exemple, on va le découvrir. En fait, tout proche de chez nous, regardez-moi ça comme partenaire. Je citerai, par exemple, il y a le Défi Michée qui lutte aussi contre la corruption. Et en allant sur le site, j'ai pu découvrir qu'en cette année, en octobre, du 14 au 20, il y a aussi tout un défi qui se passe en relation avec Stop Pauvreté 2015 pour essayer, au niveau économique, d'arranger que les pauvres puissent quand même avoir un peu d'argent, que les riches un petit peu moins. Mais je vous invite à aller sur ces sites. Alors, Défi Michée, Stop Pauvreté. Ensuite, comme partenaire, si je parle du service de mission et d'entraide, c'est aussi une association qu'on les a entendus dernièrement lors d'un culte. Ils ont aussi tout un ministère pour aider. Ou bien, je citerai encore, par exemple, Mercy Ship. Mercy Ship, ils ont un bateau et puis ils vont de port à port pour offrir des soins médicaux, dentaires à des pauvres qui n'ont pas les moyens. Ou bien, par exemple, en citant un dernier pour mettre sur ce slide, par exemple, si vous avez déjà entendu Compassion, le site Compassion, eh bien, on peut faire du parrainage d'enfants qui n'ont peut-être pas autant de moyens financiers. C'est une association qui ont des lieux d'accueil dans des endroits stratégiques, par exemple à Haïti. Et puis, on peut permettre en financement, on peut financer, donner un petit peu d'argent pour que ces enfants puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent tout d'un coup avoir de quoi de se nourrir. Je suis sûr qu'on pourrait faire une liste d'une centaine et d'une centaine d'autres partenaires, mais c'était ceux qui me venaient à l'esprit ce matin. Voilà. J'arrive au terme de ce culte avec une conclusion. Dans les différents chants que nous avons chantés, ou bien il y avait aussi un psaume, tout d'un coup ça me fait écho, dans un tel monde d'injustice, eh bien le résumé pour dire de tout ce message prophétique de Michée est dans un tel monde d'injustice, il convient de fixer nos yeux sur l'Éternel. Et pour tenir, il faut développer avec lui et sa volonté un lien fort. Alors maintenant, vous voyez le texte qui est affiché. Dans un tel monde d'injustice, il convient de fixer nos yeux sur l'Éternel et, pour tenir, il faut développer avec lui et sa volonté un lien fort. Alors, j'aime poser toujours des questions un petit peu ouvertes. À la fin, ça permet aussi dans les cellules, dans les lieux où on se réunit pour pouvoir repartager sur le texte ou bien dans nos cultes personnels, que ferions-nous si ces paroles de cette prophétie nous étaient adressées aujourd'hui? Quel genre d'injustice laissons-nous prendre place dans notre vie? Quel genre d'idoles doivent-elles être détruites? En fait, Dieu seul nous montre la voie de la paix éternelle. Et lorsqu'il nous discipline, c'est pour nous aider à rester sur le droit chemin. Alors que l'Éternel nous bénisse avec cette lecture du livre de Michée.